Il est 6h40 et sur France Culture, c'est l'heure du journal des idées. Avec vous, Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Les partis et les mouvements politiques fourbissent leurs armes en ce moment en vue des élections européennes de mai prochain. Tout cela semble assez confus, à l'image, Jacques, du désistement de Daniel Cohn-Bendit comme tête de liste de La République En Marche.
Oui, dans une atmosphère même générale de débâcle annoncée, c'est à qui siphonnera les voix des électeurs dans son orbite. Wauquiez et Dupont Montaignan à l'extrême droite, Mélenchon à la gauche de la gauche, confère le boycott orchestré des députés insoumis à la fête de l'UMA, et Macron, au péril de sa rhétorique des blocs, démocratie libérale contre régimes illibéraux, progressistes contre populistes. Dans Mediapart, Ludovic Lamant passe au crible cette stratégie du clivage qui trace une ligne de partage pour structurer la politique européenne avant les élections de mai 2019, une grille d'analyse qui masque les alternatives à l'Europe néolibérale et qui avait porté ses fruits face à Marine Le Pen lors du deuxième tour de la présidentielle. Chef de file des écologistes au Parlement européen, le Belge Philippe Lamberts la résume ainsi. Macron a besoin des démons du genre Orban et Salvini pour se profiler sur le devant de la scène. Ce sont les meilleurs ennemis du monde, ils se nourrissent les uns des autres, ils veulent bipolariser le débat de façon à ce que disparaisse tout ce qui n'est pas eux. Nombreux sont ceux qui se refusent en Europe à gober la mouche, notamment au nom de l'unité européenne, même si ce n'est pas toujours dénué de calculs politiciens. Aux Pays-Bas, en Autriche, en Allemagne, comme en Belgique, des coalitions redoutent une sécession des partis nationalistes. Et le puissant PPE, la grande famille des conservateurs européens, voit se profiler le risque d'une perte d'influence en cas de création d'un groupe d'extrême droite au Parlement de Strasbourg. Ce serait d'ailleurs justement l'objectif du chef de l'État, l'implosion du PPE, qui lui permettrait de récupérer ses éléments les plus centristes dans un nouveau groupe construit sur mesure après les élections de mai. À y regarder de près, le clivage en question apparaît moins tranché au plan idéologique sur nombre de dossiers économiques majeurs, du libre-échange aux politiques budgétaires, en passant par les réformes dites structurelles, marché du travail, retraite. Et il permet de passer sous silence les alternatives au récit dominant, qui, au-delà de la fable de la concurrence du plombier polonais, pourrait dessiner les contours d'une Europe sociale. Le storytelling du clivage recycle au fond la dialectique ami-ennemi, définie par Julien Freund comme l'essence du politique. Protège-moi de mes amis, je me charge de mes ennemis, lesquels peuvent s'avérer à l'occasion des alliés objectifs. En l'occurrence, des amis, on a pompé la substance, le fantôme du PS et la frange modérée des Républicains jusqu'au camp retranché de Wauquiez à la lisière de l'extrême droite. De quoi alimenter encore, si besoin, le discrédit des partis politiques dans l'opinion qui rejoint ainsi les conceptions de Max Weber ou Schumpeter, selon lesquelles ils ne seraient rien d'autre que des organisations spécialisées tendues vers la conquête de postes, oublieuses de leur mission d'origine, le bien commun. Dans un ouvrage collectif paru aux éditions du Croquant sous le titre « Que faire des partis politiques ?», Daniel Gaxi et Willy Pelletier analysent la crise actuelle de la représentation politique en démocratie et ils observent que les partis subissent une forme d'évidement. Baisse du nombre des adhérents, gentrification des recrutements, affaiblissement des engagements, recul des activités militantes. Nicolas Buet relève également l'obsolescence des programmes, notamment à gauche, malgré une apparence de plus en plus sophistiquée, mais qui confine aux détails et manque de vision à long terme. Sinon, c'est purement et simplement la défense du statu quo ante. Et à droite, on a cessé de se préoccuper de l'Église ou de l'Empire, de la morale ou de la grandeur de la patrie pour se rabattre sur la diminution des charges des entreprises. Les partis, ces institutions en voie de disparition, sont désormais appelés à être remplacés par des mouvements dématérialisés aux adhésions éphémères, à portée de clics d'ordinateurs, sans organisation locale, n'existant qu'à travers les réseaux sociaux. Mais au fond, ces innovations revendiquées, souplesse, numérisation, dématérialisation, réseau, constitue depuis longtemps le répertoire même des modernisateurs libéraux pour, par exemple, reconfigurer les administrations, habiller et légitimer leur forme de plus en plus verticale au principe d'une caporalisation renforcée dans les relations entre les hiérarchies et des personnels réduits à n'être que ressources humaines. Dans Le Monde, Éric Fassin débat avec Marc Lila de sa thèse développée dans La gauche identitaire, une gauche qui se complairait dans un discours sur la diversité, oubliant les enjeux économiques et sociaux et la recherche du bien commun. S'il est vrai, lui répond Éric Fassin, que Donald Trump a surfé sur le racisme et le sexisme pour attiser le ressentiment contre Barack Obama et Hillary Clinton, imputer son triomphe aux universitaires qui parlent de genre et de race, n'est-ce pas inverser les causes et les effets ? Question.